what are you?
Le Yiddish aujourd'hui.
Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités.
Avec Astrid Ruf et Annette Fern. Bonjour, donc aujourd'hui c'est Annette toute seule et nous allons continuer donc la série que j'avais commencée la semaine dernière sur Pessah en yiddish. Et je vais lire donc un extrait d'un livre dont j'ai déjà parlé, mais je n'avais pas lu ce passage. C'est « Les gens de Godel Bojitz de Leib Rashkin. Donc je rappelle que Leib Rashkin est le pseudonyme de Scholl Friedman, né en 1905 à Kazimierz-Dolmy. Et qui est décédé dans le ghetto de Bialystok en 1941, donc une vie très courte, et qui a édité donc en 1936 en yiddish ce gros volume de donc qui raconte l'histoire d'un shtetl, un shtetl imaginaire, bon dont il, à qui il a donné ce nom étrange de Godel Bojitz, qui est en fait sa petite ville. Et c'est vraiment une description de la vie du shtetl avec tous ces personnages et aussi les effets de la guerre de 14-18 qui va tout bouleverser. Ce livre est accessible donc aux éditions Le Tripode, traduit très très bien par Jean Spector, qui est un excellent yiddishisant. Le yiddish est sa langue maternelle, mais la traduction en français est très bonne. Et malheureusement, Jean Spector est décédé juste avant l'édition de ce livre. Voilà, donc je vais lire un extrait qui parle de Pessah, justement. Donc là, nous retrouvons un personnage dont j'avais pas mal parlé, qui est Mademoiselle Broderson, qui est la fille d'un riche commerçant ruiné. Donc c'est un commerçant qui était installé en Union soviétique, à Moscou, et qui a été chassé par la Révolution. Il a été dépouillé de ses biens, et au moment où il avait peur d'être aussi dépouillé, si je puis dire, de sa vie, hein, puisque la situation est extrêmement dangereuse, donc il a réussi à fuir la Russie avec sa femme et sa fille. Il s'est installé donc à Godel Bojitz. Et cette Mademoiselle Broderson donc, va amener un petit peu la culture, la modernité dans ce shtetl. Et nous l'avons vu qui avait consolé le petit Shimon Shifritz qui s'était battu. Et elle l'a amené chez elle, elle lui a mis un pansement et elle lui a proposé de lui donner des cours de polonais. Et c'est vraiment l'arrivée de la modernité dans le shtetl pour que pour que les gens puissent avoir accès au monde moderne et au monde en général et pas seulement rester dans le milieu juif. Voilà, donc nous sommes au moment où cette Mademoiselle Broderson essaye de convaincre les parents d'envoyer les enfants. Alors d'abord ils disent non et puis finalement ils viennent tous. Et voilà, donc je vais lire le passage où elle va, comment commence ce passage sur où nous allons parler de Pessah, excusez-moi. Voilà, donc, alors, il y a un conflit entre Mademoiselle Broderson et les enfants, puisqu'elle exige qu'ils enlèvent leurs casquettes pendant les cours. Alors, je n'ai pas très bien compris pourquoi, mais apparemment, c'était important, donc... Les enfants acceptent, sauf Shimon, justement, qui lui s'entête, ne revint pas à l'école pendant 2 jours, mais il revint s'excuser, il voulait apprendre. Mais la pieuse Godel Bojitz n'en était pas quitte avec ce seul sacrifice. L'institutrice avisa bientôt de proposer aux enfants de faire du théâtre. Elle persuada les enfants du cercle culturel de monter eux aussi une pièce. Elle avait le dessein, cette femme pernicieuse, de pervertir la vie juive de Godelbogitz. Mais Godelbogitz ne resta pas endormi. Un groupe d'hommes mené par Reb Eliezer Graf et Reb Moshe Mendel vinrent faire un tel scandale chez le rabbin que la moitié de la ville s'attroupa. Le rabbin ne laisse faire et ne dit rien. Quel sacrilège du théâtre! Ton grand-père, de mémoire bénie, ton grand-père, Mayerl, ne l'aurait jamais toléré. Allez, tête nue, advienne que pourra, il n'aura pas toléré. Que faut-il faire? Que doit-on faire? Demanda le rabbin. Pour commencer, chaque père à la maison doit baisser la culotte de son garçon et lui administrer une volée sur « vous voyez ce que je veux dire ». Quant aux filles, il faut les prendre par les cheveux. Tu restes à la maison dévergondée. Mais ça ne suffit pas. Il faut que le rabbin vienne avec eux chez le commandant de la ville, François-Joseph lui-même, que son nom soit glorifié, respecte la religion. Voilà, donc nous sommes là encore pendant la guerre de 14. Et c'est le moment où ce sont les Autrichiens qui occupent la ville, hein, qui occupent la région. Donc c'est pour ça qu'on parle de François-Joseph. Le rabbin leur livra alors un secret. Le commandant était juif. Ah, il ne le savait pas? Il parlait bien du nouveau commandant. Comment s'appelait-il déjà? Stengelmeier. Et s'il était juif, il devait savoir qu'il était probablement un pire hérétique que s'il était goy. De plus, il avait appris, lui, le rabbin, par une rumeur, que le nouveau commandant et la fille de Broderson se connaissaient. Si c'était le cas, c'était peine perdue. Qu'obtiendrait-il par des cris? Impossible de se disputer avec ces gens-là en ce moment. Quant à lui, le rabbin, il s'apprêtait à faire rentrer de la farine pour Pessah. Il n'était pas impossible qu'on soit obligé d'avoir recours à la fille de Broderson. Qu'est-ce qu'il voulait? Que la communauté vienne, qu'à Dieu ne plaise, à manquer de farine, de Pessah? Les matz sont une obligation dans la Torah, et le théâtre n'est qu'un interdit émis par des sages plus tardifs. Mais Moshe Mendel ne se calmait pas. Le rabbi, disait-il, prenait les choses trop à la légère. Son grand-père connaissait mieux la loi, il ne bravait pas un interdit avec pareille désinvolture. De sa propre initiative, Moshe Mendel réunit quelques bourgeois de poids et s'en fut trouvé le commandant de district. Pas de problème, lui, le Yupa, il allait s'expliquer avec lui. Après tout, déclara Reb Moshe Mendel, s'il me coffre, j'irai en prison. Quand il y a le feu, on n'en est pas à sa près. Le commandant de district reçut la délégation, mais ils ne purent se comprendre. Moshe Mendel expliqua aux autres. Son Excellence parle le vrai allemand. Le commandant de district avait sonné pour que quelqu'un vienne. Ce fut le lieutenant Stengelmeier qui entrait. Les juifs de la délégation comprirent immédiatement que l'affaire était dans le lac. Si la main d'un juif tremble dans une histoire... Mais Moshe Mendel décida d'aller jusqu'au bout. « Dites-lui à votre excellence, votre chef, que les juifs, que chez les juifs, le théâtre est interdit. Dieu nous protège de tous les mauvais esprits. » Le lieutenant de gendarmerie. « Monsieur le commandant de district dit qu'il ne comprend pas pourquoi on priverait la jeunesse de distraction. » Moshe Mendel, dites-lui à l'excellence, à votre chef, que l'empereur François-Joseph lui-même, que son nom soit glorifié, n'est pas hostile à la religion. Oui, François-Joseph était très très estimé parmi les juifs. Hein. Le lieutenant, monsieur le commandant de district, dit que sa majesté impériale n'est pas hostile au théâtre et qu'elle est pour le théâtre. Reb Moshe Mendel hésita un instant, puis à voix basse. « Dites à son Excellence que l'empereur, que son nom soit glorifié, n'est pas juif et que c'était ce qui est permis aux idolâtres. » Il sous-entend, bien sûr, n'est pas permis aux juifs. Le lieutenant de gendarmerie était perdu. Il se donnait un mal de chien pour se faire comprendre, mais sans résultat. Peut-être lui-même ne saisissait-il pas cette argumentation talmudique. On a tout de même fini par faire du théâtre, et plus d'une fois. Au début, le rabbin avait obtenu que les rôles de filles soient joués par des garçons travestis. Mais plus tard, garçons et filles se mêlèrent sur la scène en toute liberté. Quant au public, ils venaient aux représentations et s'en léchaient les doigts. Même à la maison d'études, pendant la prière, on parlait théâtre. dans cette même maison d'études, Moïse Sofer, à qui les affaires du monde importaient comme les neiges de l'an passé, était assis près du poêle et se tapait sur le ventre. « Qu'est-ce que je vous avais dit? Ce sont les persécutions qui font les Juifs et les libertés qui les défendent. Vous vouliez des Autrichiens ?» C'était une pierre dans le jardin de Moïse Mendel qui, depuis le début de la guerre, était pour les Allemands. Moïse Mendel s'éloigna vivement du poêle. Il ne pouvait supporter d'entendre parler ce bon à rien à qui tout argument était bon pour démontrer que du temps des Russes, tout allait beaucoup mieux. Moïse Sofer ne pouvait pas oublier les petits pains blancs de l'Empire du Mal. Donc apparemment, les Russes faisaient du bon pain. Je ne sais pas pourquoi c'est noté ça. Dans l'intervalle, le jeune rabbin avait obtenu l'autorisation d'importer une charrette de farine de Pessah. Il se débrouilla pour en importer deux. Mais le commandant juif, qui avait, si vous me pardonnez l'expression, des yeux au postérieur, avait retenu le convoi tout entier. Alors là, Jean Spector a gardé l'expression « des yeux sur le derrière hein, », que je ne connais pas d'ailleurs en yiddish. Alors, bon, on aurait pu traduire en français « des yeux derrière la tête », mais c'est moins, peut-être moins savoureux. Contraint et forcé, Maier, le rabbin, coiffa sa petite casquette de fourrure qui lui donnait un air matois et attaqua à grandes enjambées la pente montant jusqu'à l'école de la fille de Broderson. Il bondissait de rocher en rocher comme un cerf pour pouvoir respecter un commandement, car la farine confisquée n'était pas de la simple farine, mais la farine de Pessah pour faire des matzes. Et le séjour prolongé dans la gendarmerie pouvait l'entacher d'un soupçon de non-conformité rituelle. Oui, c'est-à-dire que si de la farine est entreposée trop longtemps, elle risque de s'humidifier, de lever, et donc elle n'est plus du tout, on ne peut plus du tout l'utiliser pour Pessah. Une consolation, le commandant était juif, avec une imperfection, certes, mais juif tout de même. Un juif dans ses entrailles est imprévisible. En voyant le rabbin sur le seuil de la classe, les garçons coiffèrent tous en hâte leurs casquettes et mademoiselle Broderson s'avança rouge de colère et prête à défendre ses conquêtes civilisatrices. Voilà, donc nous allons faire une petite pause pour voir ce qui va se passer là avec cette farine de Pessah. Et je vous propose une musique toujours extraite de ce disque qui s'appelle Jewish Culture. C'est une anthologie et là, nous allons écouter une musique qui s'appelle « Freilach Yontov », donc « Joyeux Yontov » de Naftole Brandwein. Thank you. Puisqu'on parle de théâtre, je voulais évoquer le livre de Sholem Aleichem qui est consacré exactement au même thème, c'est-à-dire le théâtre dans un shtetl, donc c'est Blonjende Sternen, étoile vagabonde, qu'a également traduit Jean Spector, que j'avais présenté. Voilà, donc c'est vraiment là aussi le théâtre, c'est un des modes de la modernité qui entre dans les shtetls et qui les bouleverse. Voilà, donc nous continuons notre histoire de Pessah. Donc, le rabbin demande à Mademoiselle Broderson d'aller intervenir auprès du lieutenant Stengelmeier pour qu'il débloque cette farine qui est bloquée à la gendarmerie. Comment monsieur le rabbin peut-il imaginer, commença-t-elle en rougissant ? Je ne connais pas mieux le commandant que monsieur le rabbin. Il vient chez moi prendre des leçons de polonais et notre relation ne va pas au-delà. Et le rabbin, la panie parle bien l'allemand. La panie pourra facilement s'expliquer avec lui, plaida le rabbin. Que monsieur le rabbin comprenne, il m'est impossible d'aller là-bas. De plus, je n'obtiendrai certainement rien. Le jeune rabbin ne céda pas. La panie obtiendra certainement, il s'agit de l'exécution d'un commandement, sinon il y a un risque que la ville, à Dieu ne plaise, manque de farine de Pessah. Le rabbin continua en empruntant un exemple à l'histoire du peuple juif. Elle avait certainement lu la panie, comment une certaine reine Esther avait jadis sauvé le peuple juif de l'anéantissement, que Dieu nous protège. Et oui, c'est aussi raconté dans l'histoire en polonais. Elle connaît pas très bien tout ça, hein, donc dans sa tête, elle se dit peut-être, elle avait dû le lire, elle ne se souvenait plus. Cela lui était extrêmement désagréable d'aller parler d'une affaire de contrebande. Mais bon, elle le ferait tout de même. Donc on voit bien que le rabbin sait argumenter pour la convaincre. Et puis alors l'emploi de ce mot « pani » qui veut dire « madame » en polonais. Donc, il s'adresse à elle en l'appelant « Pani », ce qui est un mot très, très poli. Hein. Elle mit son petit chapeau de velours noir qui datait d'avant la guerre, enfila son petit manteau noir fatigué et partit voir le commandant. Pour le lieutenant Stengelmeier, c'était une agréable surprise. Quelle visite ! Non, il n'allait pas lui refuser à la gnädige Fräulein. Si la gnädige Fräulein avait pris la peine de descendre de sa colline pour venir le voir. Il ne lui refuserait pas. Comment le pourrait-il ? Mademoiselle Broderson avait de si beaux yeux gris, si grands, un visage si intelligent. Une véritable noblesse, pensa le lieutenant Stengelmeier. Toute cette histoire la mettait très mal à l'aise. Elle ne serait pas intervenue en faveur d'un individu, mais là, il s'agissait d'une communauté, des pauvres juifs qui avaient absolument besoin de leur pain rituel de Pessah. Eh bien, il n'allait donc pas lui refuser. « Soll aber das gnädige Fräulein verzeihen, mais que la gente demoiselle lui pardonne. » Voilà donc. Jean Spector a traduit « gnädige Fräulein » par « jeune demoiselle », ce qui est très joli. Elle était très naïve dans ses affaires. Lui, le lieutenant Stengelmeier, était persuadé que la moitié de cette farine ferait l'objet d'un trafic. « Oh, impossible !» protesta Mademoiselle Broderson avec chaleur. « C'est le rabbin en personne qui est venu me trouver pour cette affaire. »« Ha ha ! Apparemment, lui... » Le lieutenant Stengelmeier connaissait mieux qu'elle le shtetl. Le jeune rabbin Nishtvar ressemblait à un mystique, à une guten Vogel, le rabbin d'ici, c'est-à-dire un joli oiseau, un bel oiseau. Malheureusement, il en est ainsi, gnädige Fräulein. Le lendemain, le lieutenant Stengelmeier vint chez Mademoiselle Broderson pour sa leçon de polonais. « Bien, j'ai déjà donné l'ordre de débloquer la farine. » « Je vous remercie bien, lieutenant. »« De rien, gnädige Fräulein. Alors, qui avait raison, vous ou moi ?»« Que veut dire le lieutenant ?»« Une pleine barque de farine a été passée en contrebande sur l'autre rive de la Vistule. »« Impossible, monsieur le lieutenant. »« Et c'est pourtant vrai, gnädige Fräulein. »« Le rabbin est de Mège avec le président de la communauté juive et Moshe Abiches. » les Juifs de Godel-Bodjit sont en train de moudre du sarrasin dans les moulins à blé noir. Ya, ya, c'est ainsi, Gnädiges Fräulein, à Besserer Vogel que votre rabbin. Donc un oiseau, un sacré oiseau, je ne sais pas. Elle demeura muette, pétrifiée. Le lieutenant Stengelmeier s'inclina alors et lui baisa chastement la main. « Ne soyez pas fâchée, Gnädiges Fräulein, vous ne connaissez pas le monde. »« Tout de même, un rabbin !» s'écria la jeune femme, le visage brûlant de honte. « Peu importe, Gnädiges Fräulein, c'est la guerre qui a transformé tout le monde en contrebandiers, en voleurs, en animaux sauvages. »« Et vous, lieutenant ?» Il lui baisa à nouveau la main avec distinction. « Et vous, Gnädiges Fräulein ?» Il redressa la tête et la regarda dans les yeux avec affection. Elle baissa les paupières. Dans le silence du soir, dans l'ombre du crépuscule qui envahissait la pièce, quelque chose était sur le point de naître. Quelque chose de plus fin, de plus impalpable qu'une toile d'araignée. Ainsi se termine cet épisode sur la fête de Pessah, donc dans les gens de Godel-Bodjit de Leib Ratchkin, traduit par Jean Spector. Et nous allons terminer en écoutant une autre musique, toujours de Jewish Culture. C'est Mazel Tov, donc Aaron Lebedev, joué par Aaron Lebedev. Et je vous dis déjà... Bonne préparation de Pessah, bon Pessah Poutz et à la semaine prochaine, Shalom Aleichem.
Mazel Tov, zaita la freila, mata le chaim, taigit le zluvain, pizza ka yiderer, ois li ameila, ilomir zuzamen, freila chaim zain, has gotot bavizn, In zar zaglik, wir hoffen unser heilig Land zurück. Ich schech jonu,
schech jonu,
weikimonu,
weikimonu,
weigionu,
weigionu.
Las man haze, Liederland, Briederland, singt schöne Liederland, Lommersach nehmen alle Hand in Hand. Liederland, Briederland, tanzt durch die Kinderland, Eretz Israel ist unser Land. Oi, Tschiri, mit Tate, lebe dicker Vater in Himmel und Gott. Oi, Tschiri, mit Tate, mir danke dir für dein Genot.
Liederland, Briederland, singt schöne Liederland, Lommersach nehmen alle Hand in Hand.
Aber heit hat wir hoffen unser Handy am Ohr, schweigt sie nicht hin und schreit auf der Kohl. Schech Janu,
Schech Janu,
Weikimonu,
Weikimonu,
Weigionu,
Weigionu.
Lass mal hase,
Tanzt durch die Kinderlacht, es ist Israel, unser Land.